auditeurs seront étonnés quand ils entendront la réponse à la question suivante. Est-ce que Jésus a risqué sa vie pour nous? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'ai des questions à poser au grand livre de Dieu et je ne serais pas surprise si ces questions étaient aussi vos questions. Les voici. Est-ce que la pratique de notre religion enlève la condamnation que nous méritons à cause du péché? Est-ce que des réformes suffisent pour enlever cette condamnation? Qu'est-ce qui enlève cette condamnation? Pouvons-nous être sauvés par notre éducation? D'où vient la délivrance quand un croyant est dans l'épreuve? Est-ce que Dieu connaît tous les dangers auxquels on a à faire face? Est-ce que Jésus a risqué sa vie pour nous? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu afin de nous assurer que ce soit Lui qui parlera à nos cœurs. Prions. Ô Seigneur mon Dieu, on ne serait pas digne d'entrer dans Ta présence si ce n'était du sang de Jésus, ce sang qui nous a lavés de nos péchés, qui nous a donné accès à Toi. Aujourd'hui, on a accès au trône de la grâce, grâce au mérite de Jésus seul. Ô mon Père, enseigne-nous aujourd'hui, enseigne-nous Ta belle parole. Ô, parle-nous, Seigneur, montre-nous des choses qu'on n'a jamais connues avant, et dis-nous ce que Tu attends de nous. On a besoin de Toi, Seigneur, enseigne-nous. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le roi Assuérus a donné à Aman l'autorité nécessaire pour exterminer le peuple juif. Aman fit cela parce que Mardochée ne se prosternait pas devant lui pour des raisons religieuses. Il décida de détruire toute la race de Mardochée. En remettant son sceau à Aman, le roi et Aman ignoraient que Aman émettrait un décret immuable qui condamnerait la reine Esther. Nous avons vu la providence de Dieu, chers amis. Lorsque Aman consulta des magiciens pour déterminer quand organiser le génocide, le sort tomba sur le dernier mois de l'année, permettant ainsi le dévoilement du complot et donnant suffisamment de temps pour le déjouer. Nous avons aussi vu que la naissance de Jésus, avec le décret de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire, est une démonstration de la providence de Dieu. Marie se retrouva ici à Bethléem, lieu où devait naître Jésus selon la prophétie du prophète Michée. Dieu a dit que l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Nous nous sommes demandé si nous croyons ce décret de Dieu. De plus, nous avons souligné que la Bible est un décret de Dieu. Chers amis, nous reprenons notre étude au verset 3 du chapitre 4 du livre d'Esther. L'édit ordonnant le génocide des Juifs vient d'être annoncé publiquement. Verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Notez qu'il n'y a aucun appel à la prière. Ces gens choisissent une voie hors de la volonté de Dieu. Cyrus avait émis un décret autorisant les Juifs à retourner dans leur pays, conformément à la prophétie d'Ésaïe. Mais un grand nombre de Juifs avaient choisi de demeurer dans leur pays de captivité. Ils ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Donc, ils ne pensent pas faire un appel à la prière collective. Cependant, ils participent à un rituel religieux de jeûne et de deuil en revêtant un sac de cendres. poursuivons, verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Nous avons vu à la dernière émission que Mardochée s'était revêtu d'un sac pour aller à la porte de la maison du roi. Cela était interdit, et Esther lui fait parvenir des vêtements appropriés. La reine se sentait en sécurité dans le palais, et elle était embarrassée par le comportement de Mardochée, son père adoptif. Il se présentait en public revêtu d'un sac tout en pleurant et en se lamentant. Que fait Esther? Elle lui envoie des vêtements de qualité, en tissu fin et aux couleurs éclatantes, des vêtements dignes d'un haut fonctionnaire. Cependant, le port de ces beaux vêtements n'annulerait pas le décret du roi. Mardochée n'accepta pas les vêtements. Il garde les signes de son désarroi. Les vêtements de la religion n'enlèvent pas notre condamnation par Dieu. Nous pouvons faire une belle application avec cet incident. Les beaux vêtements de la religion n'enlèvent rien au fait que les humains sont des pécheurs condamnés aux yeux de Dieu. Malgré notre religion, le salaire du péché demeure toujours la mort. Écoutez à ce sujet ce que le prophète Ésaïe a à nous dire. Chapitre 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Dieu veut plus que des réformes. Les gens cherchent à régler la question de leur péché de différentes façons. Certains essaient la méthode des vêtements aux couleurs éclatantes. Ils refusent de croire que les êtres humains sont des pécheurs. Ils sont prêts à porter n'importe quel vêtement qui cachera la réalité du péché. D'autres vont porter les vêtements de la réforme. C'est-à-dire, ils disent que le péché n'est qu'une petite erreur et ils cherchent à le justifier et à le masquer. Ils pensent que le péché peut s'éliminer en se réformant. Nous avons besoin d'être régénérés, c'est-à-dire de naître de nouveau. Quelqu'un a dit que les églises sont devenues des endroits où un homme doux prêche à un groupe de personnes douces et les encourage à devenir encore plus douces. Mes amis, il n'y a pas de façon plus insipide d'agir que celle-ci. Il ne faut pas s'étonner que le monde ne s'intéresse plus à l'église. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de nous réformer. Mais nous avons besoin d'être régénérés, de naître de nouveau. Prenons Nicodème, un chef des Juifs, qui était une personne religieuse, mais le Seigneur lui a dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Citation de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 7. Nous avons besoin d'une nouvelle nature, parce que nous avons une nature pécheresse, et elle n'entrera pas au ciel, mes amis. Vous devez venir au Seigneur Jésus et mettre votre confiance en lui. Il est mort à la croix pour vous. Il a pris votre place et il a pris sur lui la punition méritée par vos péchés. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter ce don de grâce qu'il vous fait. Si vous allez au ciel, ce sera parce que vous avez fait confiance à celui qui est mort pour vous. L'éducation ne nous sauve pas. Il y a un autre vêtement aux couleurs éclatantes que des personnes portent, c'est celui de l'éducation. Ils affirment que le péché, c'est l'égoïsme. Tout ce que l'on a besoin de faire, c'est d'enseigner aux gens à ne pas être égoïstes. Cependant, les populations sont plus éduquées qu'elles ne l'ont jamais été, et le monde ne s'améliore pas. Il y a autant de violences, de guerres, de querelles, d'incompréhensions et d'égoïsme aujourd'hui qu'il y en avait autrefois. Nous avons besoin d'être revêtus de la justice de Christ. Voilà ce que tout être humain a besoin. De plus en plus aujourd'hui, on appelle bien ce que la Bible, la parole de Dieu, appelle mal. La religion donne souvent son accord à ses idées humanistes. Nous avons cependant besoin d'un nouveau vêtement, celui de la justice du Seigneur Jésus. C'est le seul vêtement avec lequel nous pouvons nous tenir en présence de Dieu. Voici une citation, tirée du livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 24. Par rapport à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mardochée n'était pas disposé à accepter des vêtements couleur éclatante de sa fille, la reine. Lorsqu'il retourna les vêtements, elle comprit qu'il se passait quelque chose de grave. Esther savait que Mardochée n'avait pas retourné les vêtements pour une raison frivole. Revenons à notre texte, verset 5. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Esther veut comprendre ce qui se passe. Elle veut savoir pourquoi Mardochée se présente en public vêtu d'un sac. Verset 6. Hatak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Parce qu'elle était reine, elle ne pouvait pas aller voir Mardochée personnellement. Verset 7 à 9. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. La réponse de Mardochée à Esther se résume ainsi. « La raison pour laquelle je porte un sac, c'est que notre peuple, ainsi que nous-mêmes, sommes condamnés à mort par un décret du roi. » Il remet une copie du décret à Esther afin qu'elle puisse le lire. Ceux qui affirment que la Bible n'enseigne pas que l'homme est pécheur devraient la lire très attentivement. Nous voyons ici que l'homme est pécheur. C'est écrit noir sur blanc. S'ils lisent la Bible, ils verront que Dieu dit que nous sommes des pécheurs condamnés à mort. C'est lui qui a prononcé la sentence. Le messager retourne vers la reine avec la réponse de Mardochée et une copie du décret. Verset 10. Esther charge à Hatak d'aller dire à Mardochée. Esther envoie immédiatement un autre message à Mardochée. Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Esther craint pour sa vie si elle ose venir en présence du roi sans y être invitée par celui-ci. À cette époque, c'était la coutume de tous les rois. Une personne qui venait en présence du roi sans y être convoquée était automatiquement mise à mort, sauf si le roi accordait sa grâce. Xerxès était connu pour ses excès de colère. Esther ne pouvait donc prévoir la réaction du roi si elle entre dans la cour intérieure. Elle dit donc à Mardochée, « Si j'y vais, je signe peut-être mon arrêt de mort. » Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, voyez-vous, Mardochée renvoie le messager avec cette réplique mémorable, les versets 13 et 14. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Rappelons-nous qu'il y eut une première reine et que sa dignité de reine lui fut retirée. Esther pensait peut-être à ce qui était arrivé à la reine Vasti. Mais si elle pense qu'elle ne sera pas touchée par le décret, elle se trompe. Le décret, qui est immuable, dit que tous les Juifs doivent être tués, et elle est une Juive. Mardoché, ne passe pas par quatre chemins. Tu n'es pas exempte de la condamnation parce que tu es reine. Elle s'applique à tous, les Juifs dans leur royaume, dont à toi aussi, Esther. Nous verrons plus loin que Xerxès ignorait qu'elle était juive. Chers amis, d'où peut venir la délivrance si ce n'est de Dieu? Mardoché a ajouté que si Esther se taisait, le secours et la délivrance viendraient d'ailleurs. Je me demande à qui ou à quoi il pensait lorsque Mardoché a dit que le secours viendrait d'ailleurs. Je vous pose la même question. Vers qui ou quoi d'autre pouvait-il se tourner? D'où pouvait venir la délivrance, si ce n'est de Dieu? Il était le seul espoir des Juifs à ce moment-là, et je pense que Mardoché en était conscient. Dieu délivrerait son peuple par un autre moyen. Mardoché le savait, car il connaissait les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Donc, Mardoché met Esther au défi. Xerxès était un des rois puissants du monde. Est-ce que la délivrance viendrait du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest? Xerxès régnait sur tous les royaumes environnants. Personne ne pouvait venir au secours d'Esther. Mardoché dit à Esther, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? » Mardoché commence à percevoir la main de Dieu derrière l'élévation d'Esther à la dignité de reine. Elle y fut placée dans un but très spécifique. Dieu connaît les dangers auxquels devra faire face son peuple. Nous voyons Dieu intervenir dans les affaires du royaume au moyen de sa providence. Il est évident qu'Esther n'a pas gagné un concours de beauté par simple chance. Ce n'est pas par accident qu'elle est devenue reine. Elle est là pour un but spécifique. Et c'est Dieu qui a tout prévu. Dieu était prêt à déjouer Aman. Il n'est pas pris par surprise. Dieu voit ce qui vient. Il connaît les dangers auxquels devra faire face son peuple. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Lorsque nous le laissons prendre notre main, il a la puissance pour nous soutenir. Il sait ce qui se produira demain, le mois prochain et l'année prochaine. Il s'occupera de nous. Nous n'avons qu'à lui faire confiance. Mardoché augmente dans mon estime maintenant, de plus en plus. Nous le voyons prendre position pour Dieu. Il est disposé à le faire même si cela met sa vie en péril. Il est prêt à mourir pour son Dieu. Maintenant, observons Esther. Elle est toute une reine. Versets 15 à 17. Esther envoya dire à Mardoché, « Va. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Ce sont les paroles d'une femme noble. Elle demande à Mardoché de rassembler tous les Juifs de Suse pour un jeûne de 3 jours. Elle fera la même chose avec ses servantes. Ensuite, elle risquera sa vie pour demander l'aide du roi. Encore une fois, notez que l'on ne parle pas de prière. Esther et Mardoché ne sont pas dans la volonté de Dieu. Leur présence à la maison du roi n'est pas un acte conscient d'obéissance. Pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas prié? Ils étaient aussi hors de la volonté de Dieu. Ils auraient dû se trouver dans leur pays d'origine ou à Jérusalem. Lorsque Jonas s'embarqua sur un navire pour fuir Dieu, rien n'est dit au sujet de la prière. Ils n'obéissent pas à Dieu et ils n'auraient pas dû se trouver à bord de ce navire. Il est très difficile de prier lorsque nous sommes hors de la volonté de Dieu. Comment va ta vie de prière en passant? Il se peut que des Juifs aient prié, mais le fait n'est pas mentionné. Jésus n'a pas risqué sa vie pour nous. il l'a donné, précise les Saintes Écritures. La décision d'aller en présence du roi fut un geste brave de la part d'Esther. Mais quelqu'un en a fait un encore plus noble. Il a quitté le ciel et a pris un corps pour venir sur terre. Il n'a pas dit « Si je dois périr, je périrai ». Mais plutôt le Seigneur Jésus a dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs ». Citation de Matthieu chapitre 20, verset 28. Revenons à notre texte du livre d'Esther, chapitre 5, versets 1 et 2. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther s'est bien préparée pour venir en présence du roi. Rappelez-vous le jour qu'elle se présenta devant le roi pour la première fois. Elle avait misé sur sa beauté naturelle et non sur les toilettes chères et les bijoux. Le roi l'aima et elle fut choisie pour devenir la prochaine reine. Mais cette fois-ci, elle a dû porter une attention particulière à sa toilette. Nous lisons, Esther mit ses vêtements royaux. Elle a porté ses plus beaux vêtements. Elle a dû détourner tous les regards en route vers la cour intérieure. Esther est entrée dans la cour et elle a dû prier. Son cœur devait palpiter jusqu'à ce que le roi lui présente le sceptre. Elle a dû prendre conscience de son impuissance devant le roi. Il lui tendit le sceptre et elle le toucha. Dieu aussi nous tend un sceptre. En tendant son sceptre à Esther, le roi lui donnait la vie. Mes amis, Dieu nous tend un sceptre aujourd'hui. Il est vrai que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Citation de Romains chapitre 3, verset 23. Il est vrai que nous sommes tous morts par nos offenses et par nos péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Mais Dieu nous tend un sceptre. Il a envoyé son Fils prendre sur lui la punition méritée par nos péchés et donner sa vie en rançon pour la nôtre. Son Fils a accepté d'être notre substitut et mourir à notre place. Nous pouvons maintenant venir à Dieu et toucher son sceptre de grâce. Versets 3 et 4. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Le roi sait qu'Esther n'est pas venue pour une raison frivole, mais que quelque chose de très grave trouble sa reine. Il perçoit sa détresse. Et pour la mettre à l'aise, il lui promet tout ce qu'elle veut jusqu'à la moitié du royaume. Esther ne dit pas ce qui la trouble immédiatement. Elle invite le roi et Aman pour un repas. Elle veut qu'Aman soit présent lorsqu'elle le dénoncera. Esther a fait une chose audacieuse et brave. Elle a risqué sa vie pour son peuple. Les dés sont jetés. Les jeux sont faits. Et vous, chers amis, que faites-vous de la grâce que Dieu vous tend à l'instant même? Dieu veut que vous touchiez cette grâce qui est manifestée en la personne de Jésus, son Fils unique. Qu'allez-vous faire de ce que Dieu vous offre maintenant? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Esther chapitre 5, verset 5 à chapitre 6, verset 8.
Oh, merci beaucoup, Régent. Je ne m'étais jamais arrêté sur le fait que Esther avait risqué sa vie pour son peuple, mais que Jésus, lui, n'avait pas risqué sa vie pour me sauver. Il l'a donné délibérément. Quel amour! L'apôtre Jean nous l'exprime dans le troisième chapitre de sa première épître au verset 1. Il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et c'est ce même apôtre qui nous relate ce que Jésus a dit dans le troisième chapitre de son évangile au verset 16, que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le même évangile, au chapitre 15, verset 13, Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand je réfléchis sur ce verset, je réalise à quel point Dieu m'aime, parce que j'étais loin d'être son ami quand Jésus a donné sa vie pour moi. J'étais plutôt une ennemie, même si je ne le savais pas. Dans son épître aux Colossiens, au premier chapitre, verset 21, Paul parle de moi et de tous les autres qui ont reçu Jésus comme sauveur. Il dit, « Vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Merci, Seigneur. Merci comme tu es bon de nous avoir tant aimés. Mon ami, es-tu un ami de Dieu ou son ennemi? Si un jour tu t'es reconnu comme étant un pécheur, une pécheresse perdue, si tu t'es repenti, si tu as placé ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, eh bien tu es son ami. Et non seulement tu es son ami, mais tu es un enfant de Dieu. Dieu est devenu ton Père. Jésus est devenu non seulement ton Sauveur, mais ton Seigneur, le Maître de ta vie. Et le Saint-Esprit a été scellé en toi. Il est ton Consolateur. Et en plus de tout ça, tu es certain que le jour où tu mourras, tu iras tout droit au ciel pour passer l'éternité avec Dieu. Mais si tu n'as jamais reconnu que tu es un pécheur, une pécheresse perdue, si tu n'as jamais réalisé que c'est pour toi que Jésus est mort sur la croix, que c'est ta condamnation qu'il a prise sur lui, si tu ne t'es jamais repenti, si tu n'as jamais demandé à Jésus de te sauver avec la conviction que lui seul pouvait le faire, eh bien, tu es un ennemi de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas ta condamnation. Et en ce moment, il t'appelle à lui. Et même, il s'invite chez toi. Dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, quand tu soupes avec quelqu'un, tu es intime avec lui. Et présentement, tu es séparé de Dieu à cause du péché. Mais Dieu veut rétablir sa communion avec toi. Il a fait sa part en donnant son Fils unique pour payer ta dette à la croix. Et aujourd'hui, il s'invite chez toi. Ouvre la porte. Laisse Jésus entrer. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Mon ami, repens-toi.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143. Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.